Jacques Toubon, justement, comme il est 7h41 sur France Culture, et c'est le moment du son du jour, je souhaitais vous faire entendre une lettre ouverte d'une professeure handicapée à Emmanuel Macron. Une lettre ouverte qui a été éminemment écoutée et téléchargée sur Internet. Écoutez-la.
Monsieur Macron, j'ai 32 ans, je suis professeur de français, myopathe depuis la naissance et sous assistance respiratoire. Il y a 2 ans, le département des Yvelines, parce qu'il n'a plus les moyens, parce qu'il n'y a plus de budget, a supprimé 80% de mes aides humaines qui me permettaient justement de vivre de manière autonome. Je n'ai plus aujourd'hui que 2h22 par jour d'aide pour vivre. 2h22 pour me lever le matin, me doucher, m'habiller, sortir de chez moi pour aller travailler, rentrer, me déshabiller, me coucher, avaler mes 3 repas par jour, sortir faire mes courses, sans oublier d'avoir une vie sociale et d'aller aux toilettes. Monsieur Macron, avec toutes vos capacités, aussi extraordinaires soient-elles, en seriez-vous capable ?
Les propos donc de Sarah Salmona. Jacques Toubon, une réaction par rapport à ces demandes, cette demande-ci, on l'entend souvent, on l'entend répéter, la difficulté pour les personnes handicapées de mener une existence, de mener leur existence au sein de leur profession par exemple.
La lettre de ce professeur dit beaucoup de choses qui sont au cœur des missions du défenseur des droits. Et c'est une coïncidence. Samedi matin, je participais à la journée des familles de l'AFM Téléthon, c'est-à-dire l'association des myopathes qui organise le Téléthon depuis 30 ans. Et j'expliquais justement à la fois les difficultés que nous voyons apparaître, tout simplement par toutes les réclamations que nous recevons. Le handicap est le premier motif de discrimination dans les réclamations que nous traitons et à la fois les solutions que nous pouvons apporter. Ce que dit cette professeure est effectivement grave. Il est vrai que dans la fonction publique comme dans le secteur privé, il est difficile aujourd'hui d'avoir des aménagements suffisants à tout point de vue pour que les personnes qui souffrent de handicap puissent travailler comme toutes les autres. Or, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, la loi très importante du 11 février 2005 qui dit les droits fondamentaux des handicapés, exige que l'on fasse en sorte que les personnes handicapées soient systématiquement compenser, qu'elle soit accompagnée, qu'elle puisse avoir dans l'emploi et hors de l'emploi une vie normale. Et la réponse que je fais à cette professeure, c'est que tous les jours, nous préconisons des mesures. Nous nous battons, car elle est professeure, mais nous nous battons aussi pour les enfants. À la rentrée prochaine, il y aura probablement 350 000 enfants qui, à tous les niveaux, seront scolarisés dans ce que j'appellerais l'enseignement de droit commun. Mmh. C'est un progrès formidable. Il y en avait quelques milliers il y a 10 ou 12 ans. Mais encore faut-il que tout soit fait. Et par exemple, qu'il soit doté d'auxiliaires de vie scolaire pour pouvoir, dans le temps scolaire comme dans le temps périscolaire, être comme les autres élèves.
La situation, justement, à cette situation de ce professeur... Alors justement, à cette question, vous êtes inquiet, Jacques Toubon, sur la manière dont ces enfants vont être accueillis.
Alors justement, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans un pays où ça remonte à loin. La culture du handicap, la culture de faire en sorte que les personnes qui souffrent de handicap ne soient pas traitées différemment des autres, cette culture, elle est très insuffisante. C'est vrai que par rapport à d'autres pays, et pas seulement les fameux pays nordiques ou scandinaves dont on parle tout le temps, mais si je prends par exemple un pays voisin, l'Espagne, qui a fait pour certains types de handicap, comme par exemple la cécité, des choses absolument extraordinaires.
Alors donc, pour vous, défenseur des droits, quelles sont les priorités concrètes, Jacques Toubon ?
L'accessibilité. l'accessibilité matérielle, je veux dire par là, pouvoir entrer dans les magasins ou dans les services publics en fauteuil roulant, mais aussi aujourd'hui l'accessibilité numérique. Il faut que l'on ait, pour les personnes qui sont aveugles, pour les personnes qui sont sourdes par exemple, des logiciels qui leur permettent d'accéder à toutes les informations ou de travailler. Nous avons pris une décision récemment en faveur des fonctionnaires dans la fonction publique pour qu'ils puissent avoir des logiciels adaptés. Mais je pense que nous avons là un gros effort à faire sur nous-mêmes, sur notre société, pour qu'elle acquiert cette culture. Et puis naturellement, il faut prendre des mesures. Il y a 2 ans a été reportée la date qui était 2015 où l'accessibilité devait être assurée. On a fait des dérogations, on a fait des prorogations et on a fait une nouvelle formule qu'on appelle les adaptations, les ADAP. Et je vais justement, par exemple, vérifier, mais j'ai demandé au gouvernement aussi de vérifier où on en est, combien de permis construire, combien de permis de travaux, combien de réalisations ont été faites pour, je prends un exemple, par exemple, les gares SNCF. Il y a aujourd'hui un système où il n'y a que certaines gares qui sont accessibles. Donc, une personne handicapée, au lieu d'aller, je ne sais pas, à 10 km à la gare à côté de chez elle, elle est obligée d'aller à 30 ou 40 km, là où il y a une gare qui est effectivement accessible en fauteuil roulant. Nous avons, et je le dis à la personne qui a, si jamais elle nous écoute, nous sommes totalement engagés, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère du Travail, avec le ministère de la Santé. Nous travaillons aussi avec les plus hautes autorités. À la dernière conférence nationale du handicap, qui était présidée par le président Hollande à l'époque, il y a eu un certain nombre de progrès, par exemple, sur le statut, sur la professionnalisation de ces auxiliaires de vie scolaire. Alors, ce que je dis aussi, une dernière remarque. J'ai quand même été très frappé que la première communication qui a été faite par un ministre au Conseil des ministres depuis que le président Macron le préside, c'est une communication sur la politique du handicap, faite par Madame Sophie Cluzel, la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées. Je crois que ça a un certain sens et ça peut donner à des personnes comme celles que vous avez fait entendre un certain espoir. En tout cas, nous, le défenseur, c'est un sujet que nous ne lâcherons pas et dans lequel nous ferons en sorte que les pouvoirs publics, et en particulier les pouvoirs publics décentralisés, car elle a justement parlé des attributions des départements, ce sont les départements qui ont la tutelle des maisons départementales des personnes âgées, et que donc l'ensemble des pouvoirs publics fassent leur devoir, qui n'est pas seulement une obligation légale, qui est un devoir humain.
Mais c'est ça le problème, c'est lorsque finalement ce pouvoir, il va dans les régions, il va dans les départements, comme les budgets sont en diminution, eh bien, il y a des questions de plus en plus aiguës. Alors par exemple, la scolarisation dans des classes normales, c'est évidemment un progrès, mais s'il n'y a pas les auxiliaires de vie scolaire, c'est très embêtant. Il y a la question également des personnes autistes. Là-dessus, Emmanuel Macron a dit qu'il allait particulièrement veiller à ce que les personnes autistes puissent mener une existence normale. Le défenseur
Madame Cluzel présente au début juillet un nouveau plan sur l'autisme.
Et vous, le défenseur des droits, quand
le défenseur des droits, il est devant une situation qui est effectivement préoccupante. Les départements sont aujourd'hui en France, en vertu des lois de décentralisation, principalement en charge des politiques dites de solidarité. Ça veut dire les personnes handicapées. Ça veut dire les personnes âgées dépendantes, ça veut dire l'aide sociale à l'enfance, la protection sociale de l'enfance. Et dans tous ces domaines, on constate effectivement que les départements qui connaissent une situation financière très difficile, certains sont en quasi-faillite, sont amenés à resserrer les budgets. Et par exemple, certains envisagent de mettre en commun ces 3 missions, personnes âgées, handicapées, enfance, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne solution pour chacune de ces catégories. Et donc, je suis en conversation, je dirais permanente, avec l'Assemblée des départements de France. Je rappelle à l'ordre, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, ou je rappelle à la loi, très souvent un certain nombre de départements.
Et ça fonctionne et lorsque vous...
Oui, ça fonctionne. J'en prendrai un exemple très spectaculaire. Dans un domaine qui est lié aux questions que nous allons peut-être évoquer, c'est-à-dire celle des migrants. En 2014, j'ai été amené à faire des recommandations, et je dirais même des admodestations, on peut employer ce mot, à la ville de Paris, en tant que département de Paris, qui, du point de vue légal, du point de vue juridique, ne faisait pas ce qui devait être fait pour accueillir les mineurs isolés étrangers, et qu'on appelle aujourd'hui mineurs non accompagnés. Et j'ai préconisé toute une série de choses. Eh bien, la ville de Paris...
Qu'est-ce que vous aviez préconisé ?
J'avais préconisé, par exemple, qu'on refasse complètement le système d'évaluation, qui était à l'époque sous-traité, en quelque sorte. Et puis la prise en charge, bien entendu, notamment la prise en charge éducative. Et nous avons, j'ai constaté qu'au début de l'année 2015, la ville de Paris a mis en place un grand plan pour les mineurs isolés et étrangers, qu'elle y consacre chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros, et qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a encore des insuffisances, il y a des délais qui sont très préjudiciables à la situation de ces mineurs, mais nous avons, sur la ville de Paris, une politique des mineurs non accompagnés qui nous paraît globalement conforme aux obligations légales de la France et aux compétences du département. Voilà un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Cela étant, la barrière budgétaire est en train, je le crains, et l'observation a été très justement faite par la professeure que vous avez eu à l'antenne, la barrière budgétaire est en train de tomber dans beaucoup de cas.
Jacques Toubon, vous avez fait part de votre inquiétude pour la situation des migrants. Vous avez considéré notamment que pour Calais, il y avait une situation exceptionnellement grave. Quelles sont les priorités, selon vous, pour l'accueil de ces migrants ?
Vous savez, c'est plus que des inquiétudes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le 12 juin, je crois, sur place, une mission composée d'experts de ces questions, d'expertes de ces questions, et qui sont revenus en nous disant que pour ce qui est de la mise en œuvre des droits fondamentaux de ces personnes, la situation était d'une gravité inédite et sans précédent. Que certains disent on revient à la situation du début des années 2000, mais peut-être que c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui se passe à Calais, ou en tout cas qui se passait jusqu'à la fin de la semaine dernière, c'est que tout est fait pour que les personnes qui sont là, qui doivent être 600 ou 700, hommes, femmes, enfants, soient privées de nourriture et de boissons. Et j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui par ailleurs, je crois, est un homme qui a des idées humanistes, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire « Nous en viendrons à bout ». J'ai entendu la représentante du préfet du Pas-de-Calais à l'audience devant le tribunal administratif de Lille, qui va d'ailleurs donner sa décision aujourd'hui, dire que on supprime toutes les incitations qui pourraient faire en sorte que les personnes viennent à Calais. Mais incitation, ça veut dire leur donner un abri, leur donner à boire et à manger, qu'elles soient protégées, qu'elles ne soient pas maltraitées, qu'elles ne soient pas exploitées sexuellement. Ça veut dire tout simplement que on est dans une politique qui assume de refuser l'application des droits fondamentaux à ces personnes, mais ce qui veut dire à d'autres aussi, alors que je rappelle que ces droits fondamentaux sont universels et d'application inconditionnel. Voilà simplement ce que j'ai dit. Donc ça va au-delà des inquiétudes. Et ce que je dis simplement, c'est que j'ai fait une recommandation la semaine dernière, après avoir poussé un cri d'alarme. Et je dis, par exemple, qu'il faut mettre en place des systèmes pour que ces personnes soient protégées. Pas nécessairement un centre d'accueil, mais quelque chose qui permette qu'elle soit mise à l'abri.
Parce qu'aujourd'hui, Jacques Toubon, pour expliquer la situation, on a beaucoup commenté le fait, par exemple, que les distributions de nourriture à midi étaient interdites. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont encore interdites ?
Alors, il y a, d'après les renseignements que nous avons, depuis jeudi dernier ou vendredi, où le ministre de l'Intérieur est venu faire une visite sur place, il semble qu'il y aurait qu'il y aurait, je dis, mais nous allons le vérifier aujourd'hui plus en détail, qu'il y aurait une certaine amélioration pour la distribution de nourriture dans la journée et pas seulement dans la soirée où
d'accord,
il y avait
une distribution qui était tolérée. Mais comment s'en sortir au-delà sans centre d'accueil ? Parce que
il faut s'en sortir en ne recommençant pas l'éternelle histoire qui est produite inévitablement, inéluctablement, par les politiques de maîtrise des flux migratoires qui veulent dire « je fais des murs ». Je fais des grillages, je fais des contrôles. Et, par exemple, sur un sujet...
Ça, c'est une situation de... Ce que vous décrivez là, Jacques Toubon, c'est très important, mais c'est la situation en général. Mais sur le plan local, il y a énormément de souffrances humaines réunies à Calais. Que faire, alors ?
Sur le plan local, la réponse, elle est dans l'histoire. À la fin des années 90... on ouvre un centre, en fait on transforme un hangar de la Croix-Rouge à Sangatte. Arrive le début des années 2000, le ministre de l'Intérieur en particulier décide que ce n'est plus possible parce qu'il y a trop de personnes, etc. On détruit Sangatte, on disperse. Au début des années 2010, 2013, 2014, la situation devient totalement insupportable, en particulier au centre de Calais. Les personnes qui sont là, plusieurs milliers, squattent, sont partout, etc. Les autorités locales et les autorités de l'État disent « ça n'est plus possible ». On commence à mettre en place ce qu'on appelle le camp de la lande, qu'on a appelé journalistiquement la jungle, mais c'est pas du tout ça. La jungle, c'était les bois dans lesquels on était dans les années 2002-2003. Le camp de la lande, qui commence à s'organiser. Et le 6 octobre 2015, le défenseur des droits, après avoir fait, dans l'été 2015, trois inspections successives, dit « la manière dont ça se passe est absolument indigne et contraire aux droits de l'homme ». Le tribunal administratif de Lille, en novembre 2015, donne raison à ce que j'ai dit et aux associations qu'il avait saisies. À partir de là, le gouvernement, c'était à l'époque M. Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur, est obligé de faire, en matière d'accès à la santé, en matière de points d'eau, en matière d'hébergement, un certain nombre d'efforts. Et on crée un centre avec des containers permettant d'accueillir 1500 personnes. On crée un centre, c'était un centre de loisirs qu'on transforme pour les femmes et pour les enfants, de manière à les protéger. 400 personnes, etc. Et dans l'année, fin 2015, dans l'année 2016, on commence aussi à ouvrir les possibilités de demander l'asile. Permanence à la sous-préfecture de Calais pour le faire. On était dans une situation qui n'était pas du tout normal, mais dans lesquels il y avait un certain nombre de droits qui, par la puissance publique, étaient réalisés, et en particulier une ouverture sur le droit d'asile. Arrive l'automne 2016. Pression électorale de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on dit ? On va démanteler le camp de la Lande, qui est trop grand, qui est insupportable, etc. Et effectivement, le 19 octobre 2016... on démantèle le camp, on disperse la plupart des personnes dans des centres d'accueil et d'orientation ailleurs, des colonies de vacances, des DF, d'autres centres qui ont été ouverts par des associations. Pendant 6 mois à peu près, les choses semblent se passer normalement. Encore que, par exemple, bien sûr, les procédures de droit d'asile sont aujourd'hui très largement interrompues. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où des personnes reviennent à Calais, soit elles viennent des CAO, soit elles viennent directement d'Italie ou d'ailleurs, et on dit pas de point de fixation, pas d'abcès de fixation. On traite les migrants comme une pathologie. Ce n'est pas une pathologie, c'est le mode de fonctionnement du monde aujourd'hui. Et il faut que l'Europe en tienne compte.